reprendrons donc nos travaux de ces 13e assises nationales contre le négationnisme. Je salue ici, je n'ai pas fait ce matin honte sur moi, mes étudiants, je reconnais beaucoup d'étudiants de Sciences Po, je reconnais des étudiants de la Paris School of Business, des étudiants, enfin des futurs étudiants, pour l'instant de jeunes élèves prépubères du lycée, de l'excellent lycée, Christine commence déjà à rougir, du lycée Saint-Hérambert de Saint-Germain-en-Laye. Merci beaucoup à nos partenaires, l'Histoire, le magazine, le mensuel, l'Histoire, et je salue ici les lecteurs, les abonnés de l'Histoire présents, le collectif VAN, Vigilance arménienne contre le négationnisme, Conspiracy Watch, de Rudy Rachta, qui nous rejoindra tout à l'heure, Ibuka, de mon ami Étienne, la LICRA, bien sûr, la Ligue internationale contre le racisme et l'antisémitisme, dont le président Marion Stasi a introduit les travaux ce matin, le comité des justes de Yad Vashem. Là, c'était M. Veil qui est intervenu ce matin pour nous présenter les travaux du comité des justes de Yad Vashem, et Pierre-Antoine Veil, et le mémorial de la Shoah, qui sera tout à l'heure représenté par son vice-président François Elbron, qui clôturera nos travaux, les excuses de la philosophe Cynthia Fleury, qui n'a pas pu venir pour cause de soutenance de thèse de doctorat, donc c'est une excellente raison. Je vous cède tout de suite la parole, les uns et les autres. Je vais commencer par, si vous voulez bien, Jean-François Dupaquier, qui a été journaliste pendant de nombreuses décennies. C'est absolument pas. D'abord, nombreuses, ça peut être deux. À la tête d'un hebdomadaire extrêmement sérieux et célèbre. Alors, tu as écrit plusieurs ouvrages, j'en cite un qui m'a particulièrement marqué et que je vous recommande très sincèrement, qui s'intitule, tout au pluriel, « Politiques, militaires et mercenaires français au Rwanda, 90-94 ». C'est publié chez Cartala, qui est un cas, ils ont des missions tout à fait intéressantes, notamment sur les questions africaines. Politiques, militaires et mercenaires français au Rwanda 90-94, je pense que vous ne ressortirez pas indemne de cette lecture. Voilà, je suis tout à fait sérieux, comme toujours. Jean-François, tu as la parole. Merci à chacun de ne pas dépasser 15 minutes précises, puisqu'après nous aurons la dernière table ronde et nous serons chassés manu militari rapidement en fin d'après-midi. Voilà, merci beaucoup à tous les trois d'avoir accepté d'intervenir. Je présenterai tout à l'heure rapidement Marianne Lagardis et Étienne Zanziman.
Merci pour cette invitation. Merci pour cette invitation et merci à tous. Lorsque Frédéric m'a proposé de participer à ce colloque, je me suis demandé quelle contribution nouvelle apporter à la compréhension du génocide des Tutsis de Rwanda et du négationnisme de ce crime des crimes en temps de guerre. Après y avoir réfléchi, j'ai opté pour une piqûre de rappel. Tout ce que je vais dire pourra donc avoir un petit air de déjà-vu ou de déjà-entendu, mais plus le temps passe et plus les éléments d'information prennent du sens, cette perspective se dessine et permet d'y revenir. Six brefs rappels préalables. Premièrement, avant le génocide, sa préparation est dissimulée. Pendant le génocide, sa réalité est démentie. Après le génocide, sa nature même est niée. Deuxièmement, le négationnisme est un élément du génocide et non pas un sous-produit tardif. Exterminateurs et assassins de la mémoire sont souvent les mêmes. Le négationnisme précoce ouvre plus largement la route vers le génocide. Troisièmement, les enjeux factuels, historiques et idéologiques dessinent progressivement un nouveau champ de bataille. Comme pour le génocide des Arméniens ou la Shoah, les négationnistes tentent de déporter au plan judiciaire le débat, c'est-à-dire leur vérité entre guillemets, pour tenter de faire labelliser vérité d'État ou vérité légitimée leur storytelling et pour intimider leurs adversaires. Le récent procès intenté par Aloïs Tiwara-Gabo à ma consoeur Marie-Marie Gardis, à côté de moi, s'inscrit dans ce processus. Quatrièmement, de ce champ de bataille surgit une autre évidence. Planificateurs du génocide et ou négationnistes se sont organisés en réseau. Ce réseau se dévoile, notamment au fil des procès intentés par les génocidaires et ou des négationnistes. Le choix des témoins et même celui des avocats n'est pas anodin. L'organisation du génocide et l'organisation du déni empruntent aux méthodes des mafias. Il est particulièrement difficile de remonter leur nébuleuse, sauf, comme pour la lutte anti-mafia, à documenter leur financement et à susciter le témoignage de repentir. Cinquièmement, malgré les énormes avancées documentaires sur les fautes et les responsabilités accablantes de Paris dans le génocide des Tutsis au Rwanda, tout n'est pas dit, loin de là. Je voudrais donc apporter un coup de projecteur sur quelques-uns de ces assassins de la mémoire qui n'ont guère été abattus par la commission du Clerc. Cette lacune explique, pour une bonne part, que le prurite négationniste diffusé par France Turquoise soit à peine émoussé par le travail, pourtant considérable, de la commission du Clerc. Sixièmement, nous ne parlerons ici que du négationnisme en temps de guerre. Je tiens à le préciser parce qu'on va parler d'un personnage pittoresque, mais qui a continué à opérer longtemps et jusqu'aujourd'hui. Ce chantier permanent et évolutif promet de nous occuper longtemps encore. Dans le délai qui m'est imparti, je me contenterai d'une illustration. Le rôle de l'officier de gendarmerie, Michel Robardet, figure plus inquiétante que pittoresque du narratif français du génocide des Tutsis du Rwanda dans sa façon de minimiser ou de banaliser l'extermination dite raciale. Je ne parle ici, j'insiste là-dessus, que du temps de guerre, car le rôle de Michel Robardet par la suite, et jusqu'aujourd'hui, est également intéressant, mais il mériterait pas de le dire. Pour le détail de du parcours de cet officier, je vous renvoie à la note de Jacques Morel intitulée « Le lieutenant-colonel Michel Robardet et le génocide des Tutsis de Rwanda » qui en trouve facilement sur Internet. En 15 minutes, et encore un peu moins maintenant, nous ne pouvons que survoler le rôle de Robardet en tant que haut gradé français au Rwanda face au massacre des Tutsis au Bugesera en 1992, pogrom qui constitue une sorte de répétition du génocide des Tutsis deux ans plus tard. 1992 est une année charnière et je me limiterai dans le temps. Le rapport de la commission nucléaire l'observe. Début 1992, des, ouvrez les guillemets, incidents de frontières donnent prétexte à une campagne de fausses informations. Le début de l'année 1992 est donc marqué par une fébrilité française au Rwanda. Fermez les guillemets. Les acteurs parisiens de la politique française au Rwanda n'étaient pas tous convaincus que l'armée rwandaise, la NRA, participait elle-même aux incursions armées, contrairement aux accusations et réclamations insistantes du président Habyarimana. Le colonel Gilbert Canovas avait été envoyé au Rwanda fin 90 comme adjoint de l'attaché de défense, chargé de conseiller l'état-major des FARC. Il fut placé à la tête d'une cellule évaluation-proposition avec, pour adjoint, le chef d'escadron Michel Robardet. Arrivé un peu auparavant pour réorganiser les missions judiciaires et administratives de la gendarmerie qui était dans un piètre état, Robardet montra qu'il aimait l'odeur de la poudre et le parfum de la désinformation bien davantage que la procédure. Dans une situation de guerre, il se fit fort de constituer au sein de la gendarmerie deux bataillons de marche. On est donc bien ici dans une problématique de guerre. Pas plus Gilbert Canovas que son adjoint Michel Robardet ne pouvait avancer la moindre preuve de l'intervention ou de l'implication de l'armée régulière rwandaise dans la rébellion. Leur mission visait à aider, je cite, aider les autorités militaires rwandaises à améliorer les capacités opérationnelles de leur armée afin de la rendre rapidement apte à s'opposer aux incursions de plus en plus nombreuses des troupes du FPR. Ce travail les obligeait évidemment à constater le manque d'efficacité des phares. Ils ont préféré avancer des raisons médiatiques et politiques, comme les y incitait l'ambassadeur de France, Georges Martre. Gilbert Canovas et Michel Robardet ne seront pas les seuls à transformer les mots en armes. Le 4 décembre 1991, le président Juvénal Habyarimana réunit une commission de 10 officiers supérieurs chargé de répondre à la question suivante. Que faut-il faire pour vaincre l'ennemi sur le plan militaire, médiatique et politique, comme les guillemets. Ce régime était alors en grande difficulté car les succès de la rébellion et la pression internationale poussaient à une véritable démocratisation. Devant cette crise de légitimité qui durait, Juvenal Habyarimana cherchait à combler son handicap en misant d'abord sur la remobilisation des hauts gradés et bien sûr, et c'est le plus important, sur la désignation de l'ennemi intérieur. Présidée par le colonel Théoneste Bagosora, la commission produisit un document intitulé « Définition de l'ennemi ». Donc voici quelques phrases. L'ennemi se subdivise en deux catégories. L'ennemi principal et les partisans de l'ennemi. L'ennemi principal est le Tutsi de l'intérieur ou de l'extérieur, extrémiste et nostalgique du pouvoir. Il veut conquérir le pouvoir au Rwanda par tous les moyens, y compris les armes. Le partisan de l'ennemi est toute personne qui apporte son concours à l'ennemi principal. Voici comment ce rapport identifiait l'ennemi. L'ennemi et ses partisans se recrutent essentiellement parmi les groupes sociaux suivants. Les réfugiés Tutsis, l'armée ougandaise, les Tutsis de l'intérieur, les Hutus mécontents du régime en place, les sans-emploi de l'intérieur et de l'extérieur, les étrangers mariés aux femmes Tutsis, les peuplades nilo-amitiques de la région. La circulation de ce document et le rôle que certains Français ont pu y jouer reste aujourd'hui une interrogation que je voudrais aborder. Nous avons interrogé de nombreux spécialistes français du renseignement et de la désinformation sur ce document, et notamment Pierre Conessa, qui avait été amené, peu après le génocide, à analyser la totalité des télégrammes diplomatiques et des notes des services de renseignement militaire et civil, sur ce document qui s'appelle « Définition de l'ennemi ». Il ne l'a vu nulle part. Il est pourtant un spécialiste reconnu de la fabrication de l'ennemi, qui est le titre de son ouvrage de mars 2015. Un tel document n'aura pas pu échapper à son attention. Nous avons interrogé le général Jean Varret, qui était jusqu'à mi-93, encore longtemps, le chef de la mission d'assistance militaire, et qui n'a jamais vu ce document. Jean-Michel Barlot, ambassadeur de France à Kigali, que nous avons longuement interrogé, n'avait jamais entendu parler de la commission Bagosora. Il est vrai qu'il a rejoint son poste au printemps 1993. Le lieutenant-colonel Robardet a été interrogé sur ce document au procès du capitaine Pascal Sidi-Camboire à la cour d'assises de Paris, où il était témoin cité par la défense. Question de maître Simon Forman. Que pensez-vous du document à définition de l'ennemi rédigé par la commission Bagosora en décembre 1991 et diffusé dans les garnisons du Rwanda à partir de septembre 1992 ? Réponse. Je l'ai regardé à la loupe. C'est un texte éminemment critiquable, mais comme tous les textes, il a été présenté de façon déformée. Néanmoins, c'était un texte dangereux, j'en conviens. C'est terrible. Dans l'esprit de ces rédacteurs, l'effet escompté était justement de faire en sorte que tous les Tutsis ne soient pas incriminés. Fin de citation. Comment M. Robardet connaissait-il l'esprit des rédacteurs du texte ? Beaucoup de questions restent sans réponse au sujet de ce document « Définition de l'ennemi » qui est un élément central du négationnisme et bien sûr de l'idéologie du génocide. Il affirme pourtant que tout le monde à l'ambassade de France en avait eu très vite connaissance. Curieusement, ce document n'est jamais remonté à Paris. Les militaires français au Rwanda prétendent l'ignorer. Dans le rapport de la mission d'information parlementaire française de 1998, il n'y figure même pas. Michel Robardet sait que le génocide est prévisible. Il écrit le 3 novembre 2006 sur un blog du colonel Jacques Hogard, blog que je ne rechercherai pas parce qu'il était depuis fermé, un génocide que tout le monde prévoyait depuis octobre 1990. Je vais moi-même interroger le colonel Robardet sur ce texte, et je vais vous citer donc les éléments de cette interview téléphonique enregistrée, bien entendu, et qu'il n'a pas contesté. Colonel, vous êtes le seul militaire français qui reconnaît avoir eu sous les yeux le document émanant de la commission Bacossora. Pourquoi, Michel Robardet? Parce qu'ils n'y ont pas eu accès. Moi, je ne comprends pas. Ils y ont nécessairement eu accès, car vous dites avoir transmis ce document à l'ambassade, ne serait-ce que le colonel Cussac, l'attaché militaire. Robardet. Tous ceux qui étaient à l'ambassade y ont eu accès, mais les militaires français n'étaient pas à l'ambassade. Ma question. Vous n'étiez pas le seul colonel français à l'ambassade. Nous sommes sans doute 3 ou 4 à l'avoir vu, c'est évident. Mais on lui donne aujourd'hui une importance qu'il n'avait pas à l'époque. Il n'y avait pas besoin de ce document pour le génocide. Relisez les textes de Cailly Branda des années 63. Robardet a une certaine culture, quand même, de Branda. Il y était. C'est précisément parce que tous les Tutsis étaient considérés comme des ennemis d'Abiyarimana que ce document a été élaboré. On pourrait parler longtemps du colonel Robardet, mais le temps est court. Et donc, je vais conclure, exactement dans les 15 minutes. Je vais vous citer une observation d'Etienne Smith sur le rapport du clerc et les multiples voix de la Grande Muette. C'est une considération qu'il fait dans un article paru dans la Revue contemporaine de l'histoire de l'Afrique. On pourra regretter que la commission du clerc n'ait pas su ou pu approfondir certains aspects, comme les relations sur le terrain entre officiers français et officiers des forces armées rwandaises, en particulier la fabrique du renseignement ou le recours éventuel d'une stratégie indirecte plus discrète. Au total, le rapport Duclerc permet d'assumer une mémoire de l'événement qui reconnaît des fautes et des responsabilités accablantes, sans être suspect d'antimilitarisme et sans pour autant endosser les accusations de complicité de génocide que le rapport a écarté de façon assez définitive, à mes guillemets. Je dis à tous les jeunes qui sont là, il y a encore du travail. Je vous en remercie.
Merci d'avoir notamment rappelé qu'il y a à chaque fois, chaque occurrence génocidaire, un système de déresponsabilisation qu'on oublie trop souvent, que tu as bien rappelé. N'hésitez pas à lire par ailleurs Jean-François Dubaquier qui, dans ses lectures, dispose de davantage de 15 minutes. Et donc, je m'excuse encore pour ce laps extrêmement court. À propos d'éditeurs, je salue la présence de Julie Simoni, qui est éditrice aux excellentes éditions Talendier. Voilà. Maria Malagardis, reporter, grand reporter à Libération, tu as crapahuté longtemps au Rwanda, tu y étais d'ailleurs pendant la perpétration du génocide, tu as écrit entre autres sur la piste des tueurs rwandais, entre autres ouvrages publiés chez Flammarion, et on te doit de très nombreux articles dans Libération qui ont fait date. J'en profite d'ailleurs pour citer aussi des articles qui également ont fait date, c'est ceux en 98 dans le Figaro de ton confrère Saint-Ex, Patrick de Saint-Exupéry, voilà, qui est venu à plusieurs reprises également s'exprimer lors de nos assises nationales contre le négationnisme, et tu as la parole.
Merci, bonjour à tout le monde.
Je prends le micro.
Bonjour.
Je dis passé, fermez votre micro.
Bonjour, oui, ça marche. Bonjour à tous. Alors, comme Jean-François, je me suis peut-être posé aussi la question quel thème je pourrais aborder lors de ces assises du négationnisme en lien avec le temps de guerre et le génocide des Tutsis. En fait, le sujet s'est un peu imposé à moi-même, parce qu'à l'heure où nous parlons, puisqu'on va parler du génocide des Tutsis, à l'heure où nous parlons, il y a des gens dans cette région du monde qui sont des Tutsis, qui se cachent chez eux, qui se terrent, qui ont peur d'être massacrés. Ça se passe à Goma, dans la province du Nord Kivu, qui est une province frontalière du Rwanda, à l'est de la République démocratique du Congo, où depuis 48 heures, il y a une véritable chasse aux Tutsis. Elle a donné lieu à des saccages d'églises et de magasins sous le regard indifférent de la police. Et il y a eu d'ailleurs un policier tué. Il a été tué uniquement parce qu'on lui a attribué un faciès tutsi. Cette situation, elle connaît une nouvelle escalade ces jours-ci, mais en réalité, ça fait quelques mois déjà qu'on assiste à de plus en plus de massacres visant les Tutsis. Ça fait quelques mois que le mot génocide revient dans cette région et il ne faut pas le prendre à la légère. Une des choses les plus étonnantes est que certainement vous n'en avez absolument pas entendu parler, parce que ce phénomène, cette dérive, est absolument sous couverte par les médias et les organisations des droits de l'homme. Rares sont les journalistes comme Jean-François et moi, je tiens à le dire, qui persistons à en parler. La plupart de nos collègues ne s'y intéressent pas du tout. Or, la situation est réellement inquiétante et dramatique, même si pour l'instant, elle ne donne lieu qu'à des tueries sporadiques sur un espace assez éloigné du monde et qui peuvent sembler, finalement, dans un monde chaotique où les malheurs sont légion, n'être qu'une pierre supplémentaire dans les tragédies de la planète. Sauf qu'il faut effectivement, évidemment, ne pas oublier qu'on parle ici de génocide, et même s'il n'y a pas de hiérarchie dans les malheurs, il serait peut-être temps de s'inquiéter que dans la même région, dans les régions frontalières, un même fléau se reproduise en un peu plus d'un quart de siècle seulement. C'est comme si on avait assisté à une seconde Shoah dans les années 70. Voilà, c'est exactement la même chose. Alors, pourquoi on ne croit pas que... Parce que le mot génocide, parfois, est aussi un peu galvaudé. On dit génocide des Ouïghours, et c'est peut-être justifié. On parle aussi de génocide à propos de certains aspects des crimes de guerre en Ukraine. Et pour prouver que c'est pas une vue de l'esprit et que parfois c'est pris au sérieux, vraiment au sommet, je citerai la déclaration assez inédite, bien qu'elle si largement passée inaperçue, qu'a faite le 30 novembre Alice Wérémond-Deritou, qui est la conseillère spéciale auprès du secrétaire général de l'ONU pour la prévention du génocide. À la suite de nombreuses enquêtes qu'elle a effectuées ou fait effectuer, elle publie donc ce 30 novembre une déclaration où elle-même s'alarme de l'escalade de la violence dans cette région des Grands Lacs, et notamment à l'est de la République démocratique du Congo. Et elle dit, je cite, en parlant de la région des Grands Lacs, elle rappelle, dès le début de sa déclaration, où un génocide, le génocide de 1994, contre les Tutsis du Rwanda, a déjà eu lieu. Énumérons les différents symptômes qui incitent à s'inquiéter. Les messages de haine, le fait que des Tutsis soient enlevés, tués, uniquement parfois, et parfois même par erreur, parce qu'on leur attribue ce fameux physique, dont je rappellerai qu'une des caractéristiques qu'on a vues dans d'autres périodes de l'histoire est leur nez, leur petit nez supposé fin. C'est ça qu'on dit des Tutsis. Donc il suffit parfois d'avoir ce physique, d'être grand, maigre, avec un teint assez clair et un long nez, comme on dit, pour être appréhendé, lynché, assassiné. Donc elle dit, en énumérant tous ces éléments, que elle constate la preuve de la présence persistante des conditions qui ont permis à la haine et à la violence sur une grande échelle de déboucher sur un génocide dans le passé. La référence est un peu plus claire. Depuis cette déclaration, il y a eu un certain nombre de rapports faits par des Congolais eux-mêmes, où le mot génocide est clairement également exprimé et qui s'accompagne de listes d'incidents de plus en plus récurrents, même si le phénomène est finalement assez ancien et je vais y revenir, et qui justement insiste et tente de tirer la sonnette d'alarme pour l'instant dans un grand silence. Hier, un collectif d'avocats belges et congolais a annoncé qu'il avait fait déposer un dossier auprès de la Cour pénale internationale de La Haye et que d'ores et déjà, un certain nombre de plaintes étaient prêtes concernant nommément des organisateurs souvent issus de la société civile, mais aussi des cercles gouvernementaux du pouvoir à Kinshasa, et qu'il considère impliqués dans cette escalade très préoccupante. Alors, elle est très préoccupante parce que, en plus, par rapport à ce qui s'est passé en 1994 avec le génocide des Tutsis au Rwanda, les rapprochements sont parfois assez vertigineux. En 1994, ou plus exactement au début des années 90, au Rwanda, comme aujourd'hui dans l'est de la République du Congo, c'est l'apparition ou la résurgence d'une rébellion identifiée à la communauté Tutsi qui va inciter à amplifier la stigmatisation des populations supposées associées à cette rébellion et qui vont être immédiatement considérées comme des infiltrés. À l'époque, au Rwanda, comme aujourd'hui dans l'est de la République démocratique du Congo, on entretient la fable que ces rébellions sont en réalité instrumentalisées par les pays voisins, à l'époque l'Ouganda et aujourd'hui le Rwanda. Alors, sans présupposer de l'aide effective ou non que peuvent apporter ces pays où ont vécu en partie ces rébellions quand elles ont été chassées de leur pays pour des raisons racistes et xénophobes, il faut savoir que cette accusation visant les pays voisins vise à la fois à tenter de mobiliser la communauté internationale aux côtés des accusateurs, le gouvernement rwandais de l'époque, le gouvernement congolais d'aujourd'hui, mais de manière plus subliminale, vise à entretenir l'idée que ces rébellions et par contagion la minorité Tutsi qui leur est soi-disant affiliés sont en réalité des étrangers. À l'époque, quand on parlait de la rébellion du Front patriotique rwandais, qui au passage, bien évidemment, est le mouvement qui tout seul a mis un terme au génocide de 1994, hein, quand les Occidentaux, mais aussi les pays africains, s'en sont totalement détournés. Donc, quand on parlait du FPR, on parlait des Ougandais Tutsi. Quand le régime du président Juvenal Habyarimana, à l'époque, a appelé à l'aide la France, qui va, hélas, s'installer durablement dans ce pays et finalement se laisser, elle aussi, emporter dans la spirale xénophobe et génocidaire, en tout cas, y assister et ne pas la dénoncer, Juvenal Habyarimana appelle la France au secours. Pourquoi ? Parce qu'il y a une attaque d'étrangers. Or, ce ne sont pas des étrangers, ce sont des exilés Tutsi dont les parents avaient été chassés à cause de précédents pogroms. Aujourd'hui, avec Kinshasa et le M23, on assiste à la même chose. Le président Tshisekedi passe son temps, il voyage beaucoup, pas dans l'est de son pays, mais un peu partout dans le monde. Et à chaque occasion, il accuse le Rwanda d'être derrière le M23. Il explique que le M23, ce sont des Rwandais. De façon, encore une fois, subliminale et indirecte, il laisse entendre que les Tutsis congolais qui se trouvent dans son pays sont eux aussi des Rwandais. Il a parfois d'ailleurs des glissements sémantiques beaucoup plus clairs. Quand il explique notamment que son pays ne va pas se laisser balkaniser et ne sera pas non plus le terrain d'une colonie de peuplement. Phrase assez ambiguë qui laisse quand même suggérer que ses propres concitoyens ne sont pas des Congolais à part entière. En réalité, tout le monde sait que les frontières de l'Afrique dressées au moment de la colonisation sont des frontières artificielles et donc il n'y a rien d'étonnant à ce qu'on retrouve des Tutsis au Rwanda, au Congo, au Burundi, et des gens qui parlent tous kinyarwanda dans des régions où cohabitent plusieurs langues. Donc tout ça, c'est de l'histoire ancienne et connue, mais elle est exploitée aujourd'hui de façon extrêmement, encore une fois, dangereuse. Et si tout ça peut sembler des mots, évidemment, on n'a pas de projecteur et vous en seriez horrifiés. Mais je tiens à vous dire que moi, parce que je m'occupe justement, je dirais hélas, au quasiment au quotidien, de ce qui se passe dans cette région, vous ne pouvez pas imaginer l'effroi que j'ai par moment, le matin, quand je me réveille et que je vois mon portable. Parce que je devine déjà qu'il y a des gens là-bas qui m'envoient des appels à l'aide et qui m'envoient des photos. Et quand vous voyez, vous vous réveillez et que vous voyez le corps d'une petite fille de 4 ans décapitée, eh bien il va falloir assumer. Et qu'ensuite, suit un message qui vous dit « Aidez-nous, madame, aidez-nous, parce que l'armée de notre pays ne nous aide pas, parce que personne ne nous écoute et que nous sommes tous en train de mourir. » C'est ça la réalité, c'est ça ce qui se passe là-bas. Alors, reste une question, et peut-être une différence. D'abord, pourquoi le régime de Kinshasa aujourd'hui, comme le régime du président Habyarimana hier, s'engage dans cette folie xénophobe, cette attisation de la haine? D'ailleurs, les mots d'hier et d'aujourd'hui sont les mêmes. Hein. À l'époque, en 1994, on disait que les Tutsis étaient des serpents. Lundi, dans les manifestations à Goma, on scandait tout le temps le mot « nyoka », qui veut dire « serpent ». Et c'est des Tutsis qu'on parlait. Bref, pourquoi ces régimes font ça? Parce qu'ils se trouvent eux-mêmes dans une fuite en avant. Une fuite en avant parce qu'ils savent très bien qu'en réalité, ils sont de plus en plus contestés, qu'ils sont devenus de plus en plus des systèmes mafieux qui capturent les ressources du pays, capturent toutes les richesses du pays, sont de plus en plus corrompus, ils sont inondés d'une série de scandales et de révélations qui se font, parce qu'il y a des journalistes qui travaillent, mais pour détourner le regard, pour éviter de rendre des comptes sur leur propre bilan, et il ne faut pas oublier que la République démocratique du Congo connaîtra des élections présidentielles en décembre prochain, eh bien, évidemment, comme toujours, le populisme est l'ennemi évident, l'ennemi héréditaire, la xénophobie sont des solutions faciles, on a vu ça ailleurs dans le monde. Donc, on retrouve exactement les mêmes mécanismes. Il y a juste une grande différence entre 1994 et aujourd'hui. C'est que, justement, le génocide de 1994 a préexisté. Comment les Congolais, qui ont été les voisins de cette tragédie, finalement, n'ont pas un réflexe, je dirais presque spontané? Alors, il y en a, hein. Il y a beaucoup de gens qui ont tout à fait conscience de la gravité de ce qui se passe. Mais il s'est passé quelque chose d'assez particulier à la fin du génocide de 1994 au Rwanda. L'armée génocidaire défaite et toutes les élites, les intellectuels, les hommes politiques qui ont pendant 3 mois orchestré tranquillement, enfin tranquillement c'est peut-être pas le mot, mais disons de manière délibérée le massacre de près d'1 million de leurs concitoyens, tous ces gens passent la frontière et s'installent dans un pays qui s'appelle alors le Zaïre. Ils vont s'organiser dans des camps de plus en plus militarisés. Ils vont rêver de revanche, de retourner par les armes, terminer le travail, comme ils disaient, en prenant pour base le Zaïre. En réalité, ils vont durablement s'installer dans ce pays, même si en 1996, le Rwanda post-génocidaire, lassé de l'indifférence de la communauté internationale malgré les attaques incessantes venant du Zaïre, va à son tour franchir la frontière, s'en suivront 2 guerres absolument meurtrières, mais qui ne sont pas des génocides, mais qui vont nourrir un nouveau négationnisme qui s'appellera le double génocide. On comparera le génocide du Rwanda en disant les chiffres les plus fantaisistes, il y a eu 5 millions de morts, 10 millions de morts au Congo pendant ces guerres. Absolument invérifiable et certainement complètement faux, et la nature des deux tragédies n'est pas du tout la même. Aujourd'hui encore, le dernier avatar des nostalgies du génocide de 1994 existe sous la forme d'une milice qui sévit dans l'est du Congo. C'est une milice qui s'appelle les FDLR, le Front démocratique de libération du Congo, du Rwanda, et qui s'est implanté dans le paysage, a noué des liens avec les communautés locales et a infusé l'idéologie du génocide dans la région. Donc, on se trouve dans un pays où le terrain est évidemment extrêmement favorable et d'autant plus inquiétant. Je terminerai en disant que cette réalité, cette dernière réalité prouve une chose. quand on laisse les germes du négationnisme prospérer, quand on laisse les génocidaires en liberté sur un territoire, on prépare les esprits au génocide suivant. Et je dirais une seconde chose, c'est que quand on regarde tout ça de loin, dans une, et je sais bien qu'on est tous sollicités par des milliers de malheurs dans le monde, qui ont aussi souvent nos propres malheurs à gérer, mais quand on laisse le silence s'imposer sur ces tragédies-là, eh bien, on participe aussi à une forme de négationnisme au présent.
Voilà. Bravo.
Merci, Maria. Je retiendrai notamment, parmi tous ces éléments, la traditionnelle déshumanisation, la disqualification légitimatrice, finalement, des crimes qui vont être, malheureusement, souvent perpétrés. Et la stigmatisation d'un ennemi perçu, représenté et bâti comme tel, et en l'occurrence effectivement les Tutsis sur une scénographie, enfin sur une physionomie dont tu as rappelé à quel point effectivement elle avait malheureusement pu constituer un argument, je mets ça entre guillemets, pour les génocidaires. Etienne, tu as la parole. Je rappelle que merci beaucoup d'être intervenu déjà à plusieurs reprises dans nos assises. Tu es le président de Ibuka France, donc c'est une association internationale mémorielle en faveur de la promotion de la mémoire des Tutsis victimes donc du génocide de 1994. Merci beaucoup.
Merci, un grand merci, cher Frédéric, pour cette invitation que Ibuka honore chaque fois. Et d'ailleurs, j'ai eu la chance d'être invité même avant d'être président d'Ibuka. Je précise, je suppose que je continuerai à être problème après. Je vous remercie beaucoup, le public.
Si tu te fais virer, c'est pas de toi que je
d'être aussi attentif au sortir du déjeuner. Je suis vraiment ravi d'être avec des invités, des panélistes, mais des panélistes aussi prestigieux, et d'avoir profité. Chaque fois que je viens aux assises, j'apprends. J'essaye de parler peu, mais d'apprendre beaucoup, d'écouter beaucoup. Et quand Frédéric m'a présenté le thème d'aujourd'hui, j'ai compris tout de suite que c'était une sorte d'appel et d'opportunité pour développer le sujet dont Maria vient de vous présenter avec un tel brio et beaucoup de pédagogie et d'émotion aussi, parce que ce qu'elle vient de dire sur la frayeur d'avoir ces photos le matin, ces messages, ça m'a beaucoup marqué. Je suis ici avec une double casquette, donc d'être président d'Ibuka, association, comme Frédéric vient de le dire, donc, qui œuvre pour la mémoire, la perpétuation de la mémoire du génocide commis contre les Tutsis, la justice et l'aide aux rescapés du génocide, mais également aussi comme survivant de ce génocide, parce que quand il a eu lieu, j'étais au Rwanda, j'étais aussi jeune que certains que je vois ici. Et chaque fois que j'entends ces récits effrayants, je sais que j'ai entendu ça le 7 avril 1994 quand il fallait sortir de la maison et que ma propre mère prononce le mot de dire « ça y est, ça recommence ». Alors que je ne savais pas ce qui recommençait. On a été, je ne sais pas si c'est la culture rwandaise ou c'était que mes parents et d'autres parents que je connais, ils ne nous parlaient pas exactement de ce qui s'était passé dans les années d'avant, les pauvres anti-Tutsis, certainement pour une bonne raison, pour nous protéger. Mais le jour où c'est arrivé, on a vu la peur qu'ils ont ressentie, même si je ne pense pas parler pour eux, ils n'avaient pas anticipé que ça allait avoir cette ampleur. Parce que chaque fois, ils arrivaient à fuir au Burundi ou au Congo. Pour la plupart des membres de ma famille, ils sont restés là-bas, ils sont rentrés après le Tutsi, mais il y a certains, comme mes parents, qui sont revenus au Rwanda, qui ont refait leur vie, qui ont eu des carrières et qui ont fait des choses. Donc là, le fait qu'ils se disaient quand même ça recommence, c'est assez terrible pour un jeune adolescent d'entendre ça et de voir justement se dérouler devant ses yeux, l'horreur se déployer. Je suis content d'avoir entendu les spécialistes qui sont ici, qui parlé de différentes choses ce matin et c'était très impressionnant. J'ai écouté et chaque fois j'essayais de retenir l'essentiel qui m'a ramené au vécu peut-être des petits Rwandais, à ce qui est en train de se passer au Congo, comme Maria vient de vous l'expliquer avec maîtrise. Je pense que je n'ai pas le fait que j'ai surtout j'ai le cible que je sois président d'une association du Montréal ne me donne pas beaucoup plus de sagesse particulière ou de capacité d'analyse supérieure aux différentes personnes que vous avez entendues aujourd'hui. Juste que lorsque vous survivez à un projet d'extermination, votre vue de l'humanité est altérée et changée, que vous le vouliez ou non. Il y a une certaine confiance qui se perd. Et quand vous savez que les personnes qui ont organisé cela sont parfois très instruites et très respectées dans la société, ont imaginé un projet, mis en place un projet de vous sortir de l'humanité, pas à cause de vos idées politiques, pas à cause de votre religion, ni de vos... ni pour vous voler vos biens, rien de tout ça, mais pour ce que vous êtes uniquement. Je pense que ça change la perspective et chaque fois que vous entendez parler de quelque chose qui se passe ailleurs dans le monde, il y a je pense qu'il y a une certaine alerte qui sonne chaque fois que vous entendez même des paroles commencer à être dites dans la communauté nationale. Et cela, c'est quelque chose de... dans tout ce que nous essayons de faire, dans le travail de transmission que modestement notre association fait, c'est chaque fois d'appeler, je suis content de voir qu'il y a autant de jeunes cet après-midi, c'est d'interpeller les générations actuelles sur le danger du début, d'un mot qui peut être perçu comme banal, de... Là, on parle des manifestations au Congo où ils sont en train de dire Nyoka, Nyoka, ça veut dire serpent, parce que c'est une constante dans tous les génocides, c'est une sorte de chosification, d'animalisation de l'adversaire. Et le fait que je n'ai qu'à faire appel à ma mémoire personnelle pour savoir que à l'école primaire, donc, vous pouvez nous appeler Nyenzi. Ça veut dire cafard en Kinyarwanda, et à un moment, quand c'est répété plusieurs fois, tu finis par dire bon, ben, c'est un petit sobriquet, ils le disent, c'est pas si méchant que ça, et ça se termine par plus de 1 million de morts au Rwanda en 3 mois, ce qui veut dire 10 000 personnes tuées par jour, ce qui ne s'est jamais vu, si j'en crois les spécialistes qui connaissent mieux que moi. Aujourd'hui, maintenant que nous voyons que le bruit des armes et son cocktail de malheur est en Europe, je pense que des conférences comme celle-ci sont plus que nécessaires pour continuer à apprendre, à réveiller les consciences et à faire comprendre peut-être beaucoup plus facilement que dans d'autres époques que cela n'arrive pas ailleurs. Et je pense que c'est très important. Donc depuis plusieurs années, Ibuka France, avec l'aide de ses partenaires, essaye de participer à l'éducation des jeunes, à la tolérance et à l'ouverture. Le génocide et le négationnisme qui a ici beaucoup de spécialistes sur ces sujets plus compétents que moi. Mais ce sont deux bêtes qui naissent ensemble, mais l'un survit à l'autre. En effet, s'il est élaboré pendant la conception même du projet génocidaire, il grandit avec lui pendant son accomplissement et il prospère après, en devenant protéiforme. Plusieurs aspects du négationnisme ont été évoqués ici et je pense que ça va continuer à l'être pour les discussions à suivre. Si le débat, le civisme est... doit avoir lieu dans le débat public, il ne peut avoir de calme à débattre avec un négationniste, un négateur du génocide. Pour parler de quelque chose, je pense que c'est Pierre Vidal-Naquet qui disait que pour discuter avec quelqu'un, il faut avoir un terrain commun. Tout ce que demandent les négationnistes, c'est qu'une discussion s'ouvre et qu'il y ait un débat. Alors qu'il ne saurait y avoir du langage qui pourrait dire « Ah, en ce qui concerne les génocides, il y a deux écoles ». Non. Une personne qui commence à dire cela, ça le disqualifie. Non. Il ne saurait y avoir aucune discussion avec eux. Le négationnisme est une démarche consciente. Le négationniste sait qu'il ment et qu'il déforme la vérité pour que l'accusation de génocide ne puisse être retenue. Malgré vos travaux, Maria et Jean-François et d'autres personnes dans la salle, cela reste constant dans le débat public, même si, malgré les lois qui ont été votées en France, c'est pour cela que quand j'ai vu le sous-titre du thème qui disait « Minimiser le génocide des Tutsis au Rwanda », comme vous le savez tous, la plupart des négationnistes maintenant se cachent derrière un terme d'essayer de comparer les malheurs, d'essayer de parler d'un autre génocide, de massacres, ce qui est en soi constitutif du délit de négationnisme aussi. Mais ils ne prennent plus, ils essaient de prendre des gants, et pour cela, nous avons eu des procès à Nanuka et ailleurs, justement, pour essayer de démontrer que cette forme de négationnisme est aussi virulente et aussi nocive que la première. Même si Marianne a très bien parlé, permettez-moi quand même de prendre la liberté de parler de ce qui se passe à l'est de la RDC. Je ne sais pas si j'apporterai une lumière différente, vu que son explication était limpide, et même moi j'ai appris certaines choses, puisqu'elle est sur le terrain constamment, ce que nous pouvons pouvoir apporter par les médias. Nous entendons des paroles et nous voyons des actes que nous avons failli croire et voler. La haine anti-Tutsi est vive et fait des morts actuellement au Congo. Et je pense que c'est la région au monde où il y a la plus grande concentration de bandes armées. Je crois qu'il y a plus de 100 dans les groupes armés. Et ce qui se passe actuellement, pour moi, c'est un clou de plus dans le cercueil du plus jamais ça, qui était déjà assez bien. Je me voyais très mal de parler d'autre chose sans évoquer ce sujet, car les États aussi de notre nombre de pays sont largement franchis en ce qui concerne ces questions. Je parle de cela, comme j'ai parlé aussi de ce qui se passe en Ukraine, et comme ce matin, mon ami à parler de ce qui se passe au Karabakh, parce que je me suis rendu compte même avant la création du BUCA, parce que le BUCA, dont je suis le président seulement depuis 3 ans, a été créé en 2002. J'étais encore jeune étudiant en Toulouse, je me suis déplacé à New York, c'est là que ça s'est créé. Et nous avions déjà une association de jeunes rescapés à Toulouse, et chaque fois, il y avait le besoin de parler des malheurs qui se passent ailleurs et des conflits qui se passent ailleurs, parce que nous nous sommes retrouvés juste, je pense, assez innocemment à poser des questions sur des jeunes français qui avaient grandi ici, ou quand nous partions dans des voyages très intéressants avec des jeunes juifs et des jeunes arméniens au Rwanda, visiter les sites des massacres. Et quand on leur posait des questions dans l'avion, même avant d'arriver là-bas, ils nous confessaient leur ignorance complète sur le sujet. Et je les voyais, certains de mes amis rescapés, dire « Mais ce n'est pas possible, vous ne pouvez pas être aussi ignorant que ça, vous ne vous intéressez pas à ce qui se passe ailleurs. » Et je voulais éviter chaque fois de tomber dans le milieu. Je pense que j'ai fait une formation aussi en relations internationales, je pense que comprendre aussi ce qui se passe ailleurs pour mieux peut-être expliquer ce qui se passe chez nous, parce que la question qui nous est posée quand nous allons dans des collèges, dans des lycées, on nous demande comment est-ce que c'est possible que des gens qui parlent la même langue, qui ont la même religion, qui qui habite un petit pays et qui, il y a eu des mariages mixtes et Paris, pas pour cela. Parfois, c'est compliqué de trouver l'explication. Il y a des thèses et des thèses qui pourraient expliquer cela, mais je pense que la meilleure chose, c'est de voyager avec les autres, de leur montrer le pays, de voir aussi comment ça évolue actuellement, et que ses racines ont été par le gouvernement actuel, mais par un travail constant aussi, de conscientisation, essayer d'être déraciné pour construire une meilleure société. Je vais peut-être m'arrêter là, parce que je pense que je voulais éviter de... qu'on me laisse une minute, je voulais finir en rond. En tout cas, je vous appelle sur une évidence que vous connaissez certainement tous, c'est que ce style de négationnisme low cost qui consiste à minimiser le génocide n'est pas du tout low cost. Parce qu'ils essayent de. Ils ont compris que les outrances limitent l'audience. Et ce qu'ils font, c'est qu'ils ont élargi le public, le négationnisme a besoin d'un porte-parole non sulfureux, des fois. Et des propos passent partout et qui peuvent être admis sur une radio de grande écoute le matin ou le soir. Il faut éviter ces idées et les personnages pour soi, pour essayer d'insuffler le doute dans l'esprit du public. Je vous appelle à la vigilance contre cela et je vous remercie beaucoup pour votre écoute et ce combat est le nôtre, mais également avec votre demande.
Merci infiniment à toi de l'avoir prodigué aujourd'hui. Pour nous, je retiens, tu as cité le grand historien Pierre Vidal-Naquet qui avait parmi ses engagements justement la lutte contre le négationnisme et qui disait aussi « Je ne débat pas avec un individu prétendant que la Lune est un fromage ». C'est-à-dire que, et tu as très bien terminé sur les outrances, malheureusement, une partie, tu l'as formidablement rappelé, une partie des variantes du négationnisme aujourd'hui s'est adaptée à une forme très voltairienne, en quelque sorte, du débat, se cachant malheureusement souvent derrière sacro-sainte liberté d'expression, hein, voire derrière l'autre sacro-saint esprit critique. Juste avant de céder la parole à mon ami Rudy, qui va présider la dernière table ronde et qui va appeler à la barre les quatre intervenants, il avait promis de revenir, il l'a fait, il est revenu, il a réussi à rentrer, c'est monsieur le député Benjamin Haddad, que je vois... au téléphone, normal. Il a un métier, lui. Non, je parle. Il a un métier, lui, un vrai métier, donc c'est normal. Bon, en tout cas, il est bienvenu chez lui, maintenant qu'il est là. Voilà, nous l'accueillerons jusqu'à la fin de la soirée, s'il le souhaite.